le journal des Amériques et d'Haïti avec Anne Verdaguer. Bonjour Anne.
Bonjour Joanne, bonjour à tous. À la une au Brésil, les aides-soignants sont en grève. La situation critique de ces soignants qui, pour certains, n'ont pas reçu de salaire depuis plusieurs mois et se sentent délaissés par les autorités. Le Brésil qui est le deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus. On vous parlera également des feux de forêt en Californie, de la vidéo postée hier par le président américain sur Twitter et qui fait scandale, d'un autre scandale qui rattrape Justin Trudeau, le premier ministre québécois. Et puis au Québec, justement, on vous parlera de ces concerts virtuels en direct qui permettent aux petites salles de spectacle de vivre. Le Brésil, avec plus de 88 000 morts, est donc le deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus. Et pourtant, à Rio de Janeiro, les infirmiers et les aides-soignants du secteur public sont entrés dans leur deuxième semaine de grève. Même s'ils sont en première ligne pour lutter contre le coronavirus, ils ne reçoivent plus leur salaire depuis plusieurs mois, victimes d'un imbroglio administratif au niveau de l'État de Rio, dont l'ancien secrétaire de la Santé a été arrêté dans le cadre d'une vaste enquête de détournement d'argent. Le reportage de Sara Cozzolino à Rio.
Elle travaille tous les jours, prend des risques et attend son salaire depuis 2 mois. Cette infirmière qui préfère rester anonyme est obligée de dormir dans les dortoirs des pompiers près de l'hôpital où elle travaille car elle n'a pas les moyens de payer les transports.
Nous les travailleurs, on est abandonnés. Partout dans le monde, en plus d'être applaudis, les soignants sont reconnus pour ce qu'ils font. Au Brésil, on n'est ni applaudis ni reconnus.
Alors que le secrétariat de la santé de l'État de Rio et les entreprises sous-traitantes du secteur se renvoient la balle, les infirmiers n'arrivent plus à payer leurs factures. Et avec la pandémie encore très présente, les conditions de travail sont épuisantes, comme en témoigne une autre infirmière qui elle aussi souhaite rester anonyme.
On se sent humilié parce qu'on travaille quasiment 24 heures sur 24 et même parfois sans réussir à faire une pause pour manger. Quand on rentre chez nous, nos factures en retard nous attendent et on ne sait pas quand tout ça sera résolu.
En attendant, les infirmiers se relaient pour que 50% des effectifs continuent de travailler, mais ils affirment qu'ils ne mettront fin à la grève que quand tous les travailleurs seront payés. Ils rappellent qu'au Brésil, plus de 500 soignants sont déjà morts contaminés par le coronavirus. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Revue de presse des Amériques.
Bonjour Marie Normand.
Bonjour Anne.
La revue de presse avec vous et on part au Venezuela où là aussi les médecins sont particulièrement touchés par cette épidémie de Covid-19.
Oui, selon l'ONG Médecins Unis pour le Venezuela, cité par le média Tal Cual, 6 soignants sont morts en 72 heures. Le bilan officiel fait état en tout de 151 décès pour un peu plus de 16 500 cas confirmés. Plusieurs organisations mettent cependant ces chiffres en doute car les capacités de dépistage sont jugées insuffisantes. Maria Graciela Lopez, présidente de la Société vénézuélienne d'infectiologie, déplore la lenteur d'obtention des résultats des tests PCR. Résultat, des patients occupent des lits d'hôpital bien trop longtemps.
Faltan centros distribuidos en todo el país.
Dans cet entretien réalisé par Mélissa Barra, la médecin explique qu'il manque des centres de dépistage dans tout le pays. Il faudrait, selon elle, au minimum 6 ou 8 laboratoires habilités pour améliorer le diagnostic des patients qui se présentent avec les symptômes du Covid-19 et puis adapter la réponse du gouvernement à la pandémie.
Un mot de la Bolivie où les mouvements affiliés au MAS, le parti du président déchu Evo Morales, annoncent une grève générale illimitée à partir de lundi.
Oui, environ 5000 personnes ont défilé hier dans plusieurs villes du pays pour protester contre le report de l'élection présidentielle prévue initialement le 6 septembre, là où est attendu le pic de l'épidémie en Bolivie. Ces manifestants menacent donc de faire grève si leurs revendications ne sont pas entendues. La plus grande marche à El Alto s'est terminée par l'attaque de 3 équipes de journalistes, d'une ambulance et de son personnel médical, écrit Los Tiempos.
En Californie, Marie, le dernier comté épargné par le coronavirus, celui de Modoc, vient de confirmer 2 cas positifs, mais ce n'est pas ce qui fait la une de la presse.
Non, c'est plutôt l'autre plaie de la Californie en ce moment qui fait les gros titres, les feux de forêt qui reprennent autour de Modoc, notamment ce petit comté du nord de l'État. Plusieurs routes sont fermées, explique le Los Angeles Times, et les pompiers ont ordonné de multiples évacuations dans la région. Ça, c'est pour le nord, mais dans le centre aussi, d'autres incendies sont signalés. Par exemple, les résidents d'une zone rurale du comté de San Luis Obispo ont été évacués.
Au Canada, deux hommes à la une de la presse ce mercredi.
Oui, deux hommes sur le même écran, Mark et Craig Kilberger, les fondateurs d'un organisme de charité au centre de la controverse depuis plusieurs semaines au Canada. We Charity, ou UNI en français, avait été choisi sans appel d'offres pour gérer un important programme gouvernemental, un programme de bourses étudiantes. Mais au même moment, il a aussi rémunéré la mère et le frère du Premier ministre Justin Trudeau. Une enquête du commissaire à l'éthique est en cours et hier, les frères Kilberger ont été auditionnés via visioconférence par la Commission des Finances du Parlement. 4 heures d'audition épuisante, selon le Toronto Star. Le Devoir nous résume. Les deux frères soutiennent que leur organisme n'a pas tiré un sou de bénéfice du contrat avec Ottawa, contrat aujourd'hui annulé. Ils ont surtout nié être trop près des libéraux. Ils soutiennent qu'ils ont obtenu davantage de contrats sous le règne de Stephen Harper, le prédécesseur de Justin Trudeau. Autre point, ils expliquent que les membres de la famille de Justin Trudeau ont été embauchés pour leur mérite et non pour leur relation avec le Premier ministre.
Et pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, regrette la presse.
Et non, même le tabloïd Toronto Sun consacre sa une à cette affaire et estime que les frères Kilberger ont offert dans leur témoignage bien moins que ce qu'ils devaient aux Canadiens. Selon l'éditorialiste du Globe and Mail, la moitié des députés du camp Trudeau étaient là pour lancer des balles molles et les députés de l'opposition ont vu leur temps découpé en morceaux de 5 minutes. Il reste encore beaucoup de questions sans réponse. Pas étonnant que le Premier ministre ait accepté de se présenter devant la commission jeudi, ironise le journal anglophone.
Aux États-Unis, controverse autour d'une vidéo partagée par Donald Trump.
This virus has a cure. It is called hydroxychloroquine, zinc and Zithromax.
Voilà, on peut guérir du virus, dit-elle. Cela s'appelle l'hydroxychloroquine. Vous n'avez pas besoin de masque. C'est en quelques mots le propos de cette vidéo incarnée par une femme qui se présente comme le docteur Stella et apparaît parmi d'autres blouses blanches devant la Cour suprême. Ce médicament n'est plus recommandé par les autorités sanitaires américaines en raison des risques pour le cœur et de l'absence de bénéfices prouvés. Twitter et Facebook ont finalement masqué la vidéo en quelques heures, mais à ce moment-là, eh bien, elle avait déjà été visionnée des dizaines de millions de fois, regrette le New York Times.
Et le Washington Post s'inquiète de son côté de la montée en puissance des groupes armés conservateurs qui se lancent même en politique.
Oui, le journal raconte l'histoire de Peter Diaz qui menait jusqu'ici une vie tranquille. À 37 ans, il n'a jamais voté, note le journal, mais il a formé son propre parti politique désormais. Il dirige American Wolf, une organisation de civils armés qui se sont auto-désignés gardiens de la paix au cours de ces mois de tension, vous le savez, entre manifestants antiracistes et forces de l'ordre. Au nom du Law and Order, martelé par Donald Trump dans ses tweets, ce groupe informel a tiré des balles de peinture sur des manifestants et part régulièrement à la chasse aux militants antifascistes lors de rondes organisées à Minneapolis, par exemple, ou à Seattle.
Et selon le quotidien américain, Marie, ce n'est pas un exemple isolé.
Oui, le Washington Post note qu'à la faveur de cette période très tendue aux États-Unis, plusieurs groupes de civils armés conservateurs ont fait irruption dans l'espace public un peu partout dans le pays. Ces patriotes autoproclamés viennent de tous les horizons, mais ce sont surtout des hommes blancs et souvent même des vétérans qui affirment que leur mission est désormais de défendre la Constitution et les libertés pour lesquelles ils se sont battus en Irak et en Afghanistan. Leur émergence a suscité des auditions au Congrès sur la montée de ces milices antigouvernementales et cette émergence alarme aussi les chercheurs. L'un d'entre eux rappelle que leur existence n'a rien de nouveau, mais que ces groupes sont passés de l'entraînement dans les bois à l'activisme de rue. Leur présence à des centaines d'événements et de manifestations cette année dans tout le pays fait partie de leur effort pour normaliser la présence des paramilitaires armés dans les rues. Et cette tendance ne se limite pas, apprend-on, aux militants conservateurs. Certains manifestants, selon le Washington Post, des manifestants antiracistes, étaient eux aussi armés ces dernières semaines.
Merci beaucoup Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques. On reste aux États-Unis et on va revenir à présent sur l'audition hier du ministre de la Justice devant les membres de la Chambre des représentants. Bill Barr devait répondre à des questions concernant la gestion des manifestations de ces derniers mois, justement, l'usage de la force, on en parlait, mais aussi son indépendance vis-à-vis du président Donald Trump dans des affaires judiciaires clés à Lubna, à Anaki, à New York.
La séance aura duré 5 heures. 5 heures d'échanges tendus entre les démocrates de la commission judiciaire et le ministre de la Justice. D'entrée de jeu, le président de la commission, Jerry Nadler, parle de Bill Barr comme d'un pion du président.
Durant votre mandat, vous avez aidé et soutenu le président dans ses pires échecs, dans le seul but de l'aider pour sa réélection.
Bill Barr est notamment accusé d'être intervenu à la demande de Donald Trump dans les procédures judiciaires contre les alliés du président, notamment Roger Stone, dont la sentence avait finalement été commuée sur décision présidentielle.
Le président n'a pas tenté d'interférer dans ses décisions. Au contraire, il m'a dit dès le départ qu'il voulait que je sois libre de prendre les décisions qui me semblaient judicieuses. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
Face aux accusations et questions très pressantes de la commission, Bill Barr s'est montré combatif, notamment lorsqu'il a dû répondre de l'envoi très critiqué de troupes fédérales dans certaines villes comme Portland.
Depuis quand est-ce toléré de tenter de mettre le feu à un bâtiment fédéral. C'est normal ça maintenant? Non, les Marshals ont le droit d'empêcher ça et de défendre le palais de justice. Et c'est ce qu'on fait à Portland.
À plusieurs reprises, les membres républicains de la commission judiciaire sont venus au secours de Bill Barr, accusant les démocrates de chasse aux sorcières. Lubna Anaki, New York, RFI.
La chronique des Amériques.
Et on part au Québec à présent, où le confinement et les restrictions que doivent respecter les salles de spectacle ont donné l'idée à des producteurs d'imaginer une nouvelle façon de capter le public. À Québec, un propriétaire de salle s'est lancé dans les concerts virtuels épaulés par un site de billets en ligne. Même si les règles de déconfinement s'assouplissent, cette forme de diffusion a quand même un certain avenir, selon lui. Pascal Guéricola a assisté à l'une de ces captations en direct.
Propriétaire d'une petite salle de spectacle à Québec, Carl-Emmanuel Picard a dû innover pour ne pas faire faillite. Depuis quelques mois, il a transformé sa salle en salle de tournage pour des concerts sans public sur place.
Ça fait deux spectacles que les artistes sont dans la loge ou qu'on les filme, dans le fond, jusqu'à se rendre sur scène. Après ça, souvent, l'artiste est ici, écrit son va chercher une petite dent en chambre froide, puis là, on monte sur la scène, puis avec la caméra.
Autour de la scène, plusieurs systèmes d'éclairage et de caméras assurent une captation de qualité au concert. Ce soir-là, c'est le musicien de blues, Steve Hill, qui se prête au jeu.
Je faisais mes Facebook Live, j'avais à peu près 2000 commentaires par soir. Ça leur faisait du bien, tu sais, parce qu'à un moment donné, t'as besoin de cette musique live dans la vie. Puis pour nous, les musiciens, on a besoin de faire des shows aussi, tu sais. Donc, moi, de revenir sur scène, c'est sûr que même s'il n'y a pas de monde, ben, c'est le fun. Si je fais un spectacle le vendredi soir à 21h, j'ai moins de public français parce qu'il est 3h du matin là-bas, tu sais. Si ça continue comme ça assez longtemps, je ferai des matinées. Je ferai des matinées pour mes amis français. Et allemand et britannique. Les dimanches matin européens avec Steve.
Depuis qu'il a commencé à filmer et à diffuser des concerts virtuels sur Internet, le producteur de spectacle Carl-Emmanuel Picard a eu des surprises, dont celle de vendre des billets pour un groupe de métal canadien au Japon, en Australie et en Europe. Au point qu'il se demande s'il ne va pas continuer pour ses clients les concerts virtuels, même après la pandémie. Carl-Emmanuel.
Les gens peuvent se mettre dans le mode d'écoute qu'ils veulent. S'ils veulent s'ouvrir une bouteille de vin, s'ils veulent être autour du feu, s'ils veulent être dans la piscine et écouter le spectacle, ils peuvent. Donc, il y a beaucoup de monde qui me disent qu'ils préfèrent ça que venir voir des spectacles en vrai.
Ah oui?
Étonnamment, là. Moi, j'ai une salle de spectacle. Si je ne ferais pas ça, la salle, je la fermerais. Donc, c'est ce que j'ai réussi à faire pour faire en sorte de survivre. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, si on veut qu'exemple, Steve Hill refasse d'autres spectacles virtuels en billetterie, il ne faut pas que son spectacle devienne accessible. Je pense que le charme, c'est que ça soit en direct aussi. Que les gens aient l'impression que ça se passe pour de vrai.
Les spectateurs sont rejoints à travers le monde grâce à un site de transactions en ligne. La programmation du Festival Juste pour Rire a bien fonctionné au Maghreb fin mai, ce qui a donné un coup de pouce à un projet du directeur de pointdevente.com. Yannick Simon Matard.
On a déjà des discussions avec des gens au Maroc pour développer une solution plus locale. Ils cherchent complètement un modèle comme celui de lepointdevente.com pour déployer chez eux. Le fait que le contenu dépasse les frontières, on vient d'accélérer les choses un peu, là. On verra comment l'industrie va s'ajuster à tout ça. La réalité est différente là-bas aussi, là, autant au niveau de c'est quoi la valeur d'un billet de spectacle au Maroc, c'est quoi la valeur d'un billet de spectacle au Canada. Donc, il y a quand même des bons défis autour de ça pour réussir à ce qu'on soit tous profitables, hein, au bout de la ligne, c'est ça. Et puis, même chose en Tunisie, c'est des gens qui veulent développer un système de billetterie puis pour qui la diffusion d'événements virtuels est un plus là, maintenant. Là, donc,
Ce modèle pourrait donc fonctionner même après la pandémie. À Montréal, une entreprise filme sur scène des humoristes, des chanteurs, des musiciens. Les spectateurs peuvent même dialoguer en direct sur cette plateforme. Youp.app voit grand. Elle a ouvert des centres de transmission semblables aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Une façon pour les artistes de limiter leurs déplacements en tournée. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Il est 9h25 à Québec. L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal Outre-mer Première, présenté par Odane Agiali. Bonjour Odane.
Bonjour Anne.
À la une, à Fort-de-France, en Martinique, l'inquiétude de certains habitants face à de possibles inondations.
Inquiétude renforcée alors que Météo France a placé l'île, mais aussi ses voisines, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Guadeloupe, en vigilance orange. Et ce, à l'approche de l'onde tropicale 21, phénomène qui doit toucher les Antilles aujourd'hui et provoquer de fortes intempéries. Dans ce contexte, donc, les habitants du quartier Berge de Debriant à Fort-de-France se sont mobilisés hier. Ils pointent l'inertie de la mairie à propos du curage de la rivière Madame qui traverse leur quartier. L'eau attaque les fonds. Plusieurs maisons seraient en danger. Régina Amaury habite le quartier Berge de Debriant. Elle réclame une intervention rapide des pouvoirs publics.
Je ne cesse de faire des démarches. J'ai demandé d'intervenir parce que nous sommes dans une période cyclonique, une période où on annonce des ouragans de plus en plus forts et rien n'est fait. Nous avons une période cyclonique qui va de juin à novembre. On devait planifier des travaux de curage, d'élagage pendant toute cette période. Même en amont, on fait quelque chose. Moi, j'ai fait tous les courriers que j'ai, date de janvier, de février. Donc, je me prends suffisamment tôt pour pouvoir planifier, pour prévenir cette période. Mais rien n'est fait. Quand vous regardez l'état de la rivière, vous voyez bien que ça ne date pas de janvier 2020. Ça, on ne va pas me dire que c'est le confinement, c'est maintenant. Non.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Anatole. Et une période cyclonique favorable à la prolifération des moustiques, vecteurs de maladies. En Martinique, la dengue est désormais présente dans 30 communes sur 34. Alors s'il existe déjà tout un arsenal pour chasser les moustiques, depuis un an, un jeune entrepreneur martiniquais fait fabriquer en Chine des lampes anti-moustiques. Devant Pierre-Yves Honoré, il a testé l'une d'entre elles.
À l'ouverture du filtre de cette lampe anti-moustique.
Là, on a une bonne centaine, je dirais même 500 moustiques. Pratiquement.
Cette cliente n'en revient pas.
Enfin, il y en a beaucoup. Hein. Bien sûr que ça m'étonne, hein. Je vous assure que maintenant, je pense que j'en prends.
Car loin d'être un gadget, cette lampe fait montre d'une efficacité redoutable. Le principe est fort simple. Une fois branchée, un néon va produire une lumière qui va alors attirer les moustiques, Habib Djiri.
Ça simule en fait la présence humaine. Donc le moustique, quoi qu'il y ait un être humain, il va directement vers l'appareil et il se fait absorber et piéger au fond du bac.
Une fois à l'intérieur de la lampe, le moustique sera aspiré au fond de l'appareil par une dépression.
En fait, c'est un ventilateur silencieux et il est en sens inverse.
Cette lampe basse consommation doit rester constamment branchée.
Donc le principe, c'est de ne jamais l'éteindre parce que le dessèchement du moustique se fait selon s'il a déjà piqué quelqu'un ou pas, en près de 8 heures de temps. Donc si on éteint la machine, par exemple, la journée, pensant que ce n'est pas efficace, ben on va libérer les moustiques.
Publicité au pays du milieu, elle a vu le jour. Cette lampe anti-moustique est en passe de conquérir la Martinique.
Un reportage Martinique la première, signé Pierre-Yves Honoré. C'est la fin de cette édition. À demain, bonne journée.
Bonne journée à vous, Odane Agiali. Merci pour ce journal Outre-mer première. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 15h10, heure de Paris, 9h10, heure de Port-au-Prince. D'ici là, portez-vous bien, restez avec nous sur la radio du monde.
Littérature sans frontières.
Pour son dernier voyage autour du monde avec la série Une terre, un auteur, Catherine Fruchon-Toussaint nous emmène au Chagos avec Caroline Laurent. Dans son roman Rivage de la colère, l'auteur nous raconte comment les habitants de l'archipel de Chagos ont dû quitter leur terre vendue à la couronne britannique.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.
RFI, les voix du monde.